Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite. Bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Commerce Élite présenté par l'agence Pure Commerce, un partenaire de croissance qui veut transformer votre commerce en ligne en commerce élite. Et aujourd'hui, c'est les chiffres qui prennent la vedette. Pendant plus d'une vingtaine de minutes, je vous livre les 17 métriques importantes qu'on suit continuellement avec nos boutiques en ligne et celles de nos clients. Bonne écoute, ça commence maintenant. Qui dit début d'année dit bilan et tendance pour 2023 et Shopify n'a pas dérogé à la règle. Très récemment, ils ont publié le Commerce Trends qui regroupe plusieurs thématiques, dont le e-commerce, les chaînes d'approvisionnement, l'argent et le marketing. Bien qu'il soit très intéressant de le lire en entier, je vais parcourir 4 points de façon synthétique, mais vous pourrez retrouver le lien directement dans les notes de l'émission. On commence avec la chaîne d'approvisionnement ou supply chain en anglais. Shopify note une crise dans la chaîne d'approvisionnement et, bien que les experts avaient prévu que la situation s'améliorerait pour 2023, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a encore augmenté la pression dans le domaine, déjà en difficulté à la sortie de la pandémie. Un point tournant non négligeable quand 60% des consommateurs mondiaux s'attendent à une livraison dans les 2 ou 3 jours maximum. C'est pour cette raison que les propriétaires d'entreprises réagissent à ce défi en repensant la sous-traitance et en réduisant leur propre stock. Ces changements peuvent coûter plus cher à court terme, mais ils créent des chaînes d'approvisionnement plus robustes qui peuvent s'adapter à un paysage logistique instable. Pensons au nerf de la guerre, l'argent. Shopify a fait un état des lieux. L'inflation touche les marques à plusieurs niveaux. L'essence, les matières premières, on parlait aussi de la chaîne d'approvisionnement, les délais coûtent cher entre eux aussi. La très forte croissance du digital pendant la pandémie a déclenché une vague d'embauche qui n'est plus autant justifiée à l'heure actuelle. Et c'est pour cette raison qu'on observe une vague contraire chez Shopify et aussi d'autres entreprises technologiques d'ailleurs. Ici, Shopify détaille plusieurs solutions mises en œuvre pour les marques. Trouver des financements externes pour supporter cette période. 73% des annonceurs questionnés ont répondu à l'affirmative à cette question. Réduire les coûts à tous les niveaux, augmenter les prix nécessairement. Et d'autres marques, à l'inverse, optent pour la fidélité à long terme en gelant les prix ou en introduisant des gammes de produits abordables. Une approche qui, elles espèrent, leur permettra de sortir grandi une fois cette période derrière nous. Le marketing à présent. Mis à part les problèmes d'attribution et de coûts d'acquisition qu'on porte depuis 2021, Shopify note que les marchés instables poussent les consommateurs à essayer de nouvelles marques. Pendant la pandémie, les 3/4 des consommateurs ont essayé une nouvelle marque, un nouveau produit ou une nouvelle méthode d'achat. Une fois les confinements levés et les frontières ouvertes, 41% des acheteurs ont rompu leur fidélité en faveur de nouvelles options. C'est pourquoi Shopify y voit un boulevard pour toute stratégie de fidélisation, mais aussi avec des collaborations payantes entre annonceurs et créateurs de contenu afin de réduire ses coûts publicitaires, une tendance qui est loin d'être inconnue chez Pure Commerce. Le social commerce à présent. Un domaine en forte croissance selon Shopify, car 9 personnes sur 10 achètent des produits auprès des marques qu'elles suivent sur les médias sociaux. Cela s'explique très simplement, la vente sociale réduit les frictions entre la découverte d'un produit et l'acte d'achat, simplifiant les interactions entre les marques et les consommateurs. Selon nos résultats d'enquête mondiale, utiliser les canaux sociaux pour la promotion et la publicité est la stratégie la plus importante pour les entreprises afin d'acquérir et de fidéliser des clients dans les années à venir. Par ailleurs, voici les quelques stratégies les plus citées pour continuer à générer de la croissance chez ces annonceurs interrogés. 28% utiliseront davantage les canaux sociaux pour le marketing et les promotions. 27% d'entre eux utiliseront davantage les places de marché en ligne. 26% proposeront des moyens de paiement comme Apple Pay, dont on a déjà parlé sur un podcast. Et 26% d'entre eux utiliseront beaucoup plus les données clients pour un meilleur ciblage, une segmentation ou encore une personnalisation. Pour conclure, je citerai Shopify, « Unexpected is the new normal ». Donc, soyez flexibles, soyez réactifs, soyez ingénieux, parce que 2023 s'annonce difficile pour l'industrie. On On parle beaucoup de marketing sur le podcast, mais qu'en est-il des finances? Quels chiffres sont-ils importants de suivre quand on possède une boutique en ligne qui fait de la croissance? Aujourd'hui, sur le podcast, on vous livre les 17 métriques qu'on regarde continuellement avec nos e-commerce pour s'assurer de la santé financière de la société. Prenez des notes, ça commence maintenant. Bienvenue à tous au podcast Commercial Été. Aujourd'hui, on va analyser ensemble les chiffres les plus importants, selon moi, bien entendu, à regarder avec votre boutique en ligne. Parce que c'est beau parler de marketing, c'est beau parler d'offres, c'est beau parler de taux de conversion comme on l'a fait récemment sur le podcast avec différents invités. Si au final, on ne comprend pas les fondamentaux financiers de notre organisation avec notre boutique en ligne, on risque d'avoir certains enjeux dans le futur et souvent, et j'en parlais récemment d'ailleurs sur un de nos autres podcasts qui se nomme le podcast Social Selling, qui parle continuellement de publicité Facebook, qui d'ailleurs, si vous n'avez jamais écouté, je vous invite à aller regarder quel type de contenu qu'on sort chaque semaine sur ce podcast. Et j'expliquais que souvent la différence entre un bon marketeur et quelqu'un qui est un petit peu plus junior, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre les réalités quotidiennes qu'il va vivre dans son gestionnaire de publicité Facebook, dans son gestionnaire de publicité Google, dans son compte Klaviyo, mais également qui est capable d'extrapoler cette réalité-là à la réalité financière d'un directeur marketing, d'un directeur des finances dans une organisation ou même d'un président d'entreprise si l'entreprise est un petit peu plus petite. Parce qu'au final, votre rôle en tant que marketeur, c'est de proposer et de faire des recommandations adéquates pour s'assurer que l'entreprise, la boutique en ligne dans ce cas-ci, soit capable de grandir à la vitesse dont elle le désire. Et si vous avez uniquement une vision sur votre réalité à vous et non sur la réalité de l'organisation en général au niveau des finances, vous risquez d'être limité dans vos recommandations. Vous risquez de ne pas avoir les bons arguments pour négocier une augmentation budgétaire sur les budgets marketing que vous aimeriez avoir. Une augmentation même peut-être au niveau des coûts opérationnels si vous voulez engager une équipe pour faire du contenu, pour faire du email marketing. Bref, vous devez comprendre autant la réalité marketing que la réalité financière d'une boutique en ligne pour, bien entendu, avoir toutes les informations à votre disposition au moment où vous devez avoir des arguments, faire des rencontres, faire des propositions avec votre équipe de direction. Si, bien entendu, vous travaillez dans une entreprise et si vous êtes une agence, bien entendu, si vous avez à faire des recommandations à votre client. Donc, je crois que parler de ce sujet-là est excessivement important sur le podcast Commercial Été parce que uniquement isoler la variable marketing avec ce balado ne sera pas assez. On se doit vraiment de regarder les réalités financières d'une boutique en ligne. Donc, sans plus attendre, on commence le podcast aujourd'hui et je vais être seul pour vous expliquer toutes ces métriques-là. Donc, bien entendu, ça va être très relié à un avis personnel des choses, selon ce que je vois avec les boutiques en ligne qu'on possède et également les boutiques en ligne de nos clients qu'on aide depuis plusieurs années. Ça fait 10 ans maintenant qu'on fait ça. Donc, on en a vu de toutes sortes avec nos clients. Et comme vous le savez, si vous écoutez le podcast depuis un certain temps, on possède également chez Pure Commerce différentes boutiques en ligne. Donc, bien entendu, ça va être relié à notre réalité, à ce qu'on voit avec nos clients et ce qu'on voit également avec nos entreprises. Donc, pour simplifier ça un peu pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, on va regarder les différentes métriques, les différents chiffres à regarder selon 4 catégories. Donc, les métriques au niveau affaires, au niveau business. Numéro 2, les métriques au niveau du marketing. Numéro 3, les métriques au niveau des produits, les coûts de produits, les coûts de manutention. Et la 4e section va être liée aux coûts opérationnels. Donc, ça, on commence avec les métriques affaires qui, à mon avis, doivent être littéralement votre ligne directrice. Votre ligne directrice continuellement avec votre boutique en ligne, que vous soyez au niveau marketing ou au niveau davantage la direction, au niveau opérationnel. Bien entendu, on va continuellement regarder notre volume de vente. Notre volume de vente qu'on est capable de générer avec notre boutique Shopify ou encore notre boutique WooCommerce. Donc ça va être la première métrique. Et la deuxième métrique qu'on va regarder, bien entendu, ça va être nos coûts totaux. Donc nos coûts autant reliés au niveau de nos COGS, donc nos Cost of Goods Sold, les coûts fixes de notre organisation, les coûts marketing. Et au final, quand on fait une soustraction de nos ventes, moins nos coûts totaux, et on va en parler un petit peu plus tard de manière granulaire, quel coût on devrait inclure dans chacune des catégories, ça va vous donner la métrique qui, à mon avis, est la plus importante pour votre boutique en ligne. En anglais, on va utiliser le terme « contribution margin ». En français, j'aime utiliser le terme « profit brut ». Profit brut doit être votre ligne directrice avec votre entreprise. Au lieu de regarder simplement des ratios continuellement, je pense que le profit brut doit être la métrique qui dicte si oui ou non vous avancez avec votre organisation. Bien entendu, les ventes et les coûts vont être capables de vous donner le tempo, à savoir à quelle vitesse vous allez pour votre prise de marché. Si vous voulez aller chercher beaucoup de prise de marché, les ventes vont être capables de vous dire si vous êtes capable d'avancer à la vitesse dont vous le désirez. Mais bien entendu, les profits bruts à la fin de la journée vont être capables de vous dire la santé financière de votre organisation globale. Donc clairement, du moins nous, ce qu'on fait avec les boutiques en ligne qu'on possède et ce qu'on essaye également d'amener nos clients, c'est de vraiment continuellement regarder les métriques au niveau du profit brut, des contribution margin, parce que c'est ce qui va dicter la santé financière de l'organisation. D'autres métriques pourraient également s'intégrer au niveau business ici, mais si on simplifie le tout au niveau affaires, on va se limiter en regardant nos ventes, nos coûts totaux, et à la fin de la journée, à la fin de cette soustraction-là, on va regarder nos profits bruts. Si on arrive maintenant aux deuxièmes métriques, les métriques de marketing ici, et là, on ne va pas uniquement regarder les métriques de retour sur investissement, les métriques peut-être de CPM, ça, c'est un petit peu trop granulaire. On va essayer de vraiment rester au niveau ici. Et les métriques de marketing qu'on va regarder, la plus importante, du moins selon moi, pour le moment, au niveau marketing et non au niveau global de l'entreprise, au niveau marketing, c'est ce qu'on appelle le MER, donc le Marketing Efficiency Ratio. Ça, essentiellement, ce que ça nous dit, c'est le pourcentage qu'on investit en marketing comparativement aux revenus totaux de l'organisation. Et si vous voulez savoir certains ratios, faites des recherches et peut-être même je pourrais vous donner des informations dans les notes de l'épisode là-dessus. Qu'est-ce qui est un bon MER en général? Mais essentiellement, on prend les ventes, on divise par le montant marketing et ça nous donne un ratio. Si vous écoutez encore une fois le podcast depuis le début, vous avez sûrement vu qu'avec la boutique en ligne qu'on documente, on est en ce moment sur un MER environ à 2:1. Donc, les ventes de notre organisation divisées par nos coûts marketing nous donnent environ un ratio de 2:1. Ce qui n'est pas tellement bon en toute honnêteté. Une entreprise qui a plus de maturité va davantage viser un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8 selon la grosseur de l'organisation. Et également, il y a beaucoup de, je dirais, de discussions philosophiques autour de ça parce que des organisations, des fois, vont vouloir générer beaucoup plus de profit d'autres. D'autres organisations vont davantage être dans un rythme de croissance effréné où est-ce que la profitabilité ne sera pas tellement importante. Donc, ils vont se permettre d'avoir un MER un peu plus bas, comme nous. C'est le meilleur exemple en ce moment avec la boutique en ligne qu'on documente, sachant qu'on est au début de l'exercice, on n'est même pas dans une première année d'opération encore, même pas dans un premier 6 mois d'opération, on se permet d'avoir un MER excessivement bas tant qu'on est capable de soutenir un petit peu les investissements qui sont nécessaires derrière pour la croissance de l'organisation. Donc le MER, clairement à travers le temps, ce que vous devez vous rappeler, c'est qu'il doit aller à la hausse. Si vous avez un ratio, comme je l'ai mentionné ici aujourd'hui, de 2:1, ben ça serait intéressant que peut-être l'année prochaine, on soit capable de tranquillement d'arriver peut-être sur un 2.5:1, peut-être ultimement sur un 3:1. Parce que ça veut dire qu'essentiellement, les revenus de l'organisation ne sont plus uniquement orientés sur de l'acquisition de nouveaux clients, mais également des clients qui reviennent. Parce qu'habituellement, le MER va monter plus on a des clients qu'on a acquéris dans le passé qui vont réacheter à l'intérieur même de notre entreprise. Et ça nous amène d'ailleurs à la deuxième métrique qui, à mon avis, est importante de regarder. Celle-ci n'est pas dans un ordre de priorité numéro 2. C'est une métrique marketing qui est très importante selon moi à regarder. C'est le LTV. Donc, la valeur long terme d'un client. Et le LTV, vous pouvez le segmenter sur un LTV 6 mois, un LTV 12 mois, un LTV 18 mois ou même un LTV sur 4 ans. Je pense que c'est très important d'avoir ces informations-là devant vous. Pour simplifier peut-être l'exercice aujourd'hui, on va essayer de le regarder sur 12 mois. Donc essentiellement, le LTV sur 12 mois, c'est de dire, si on date d'aujourd'hui, on fait une transaction et la transaction qu'on fait avec notre client est d'une valeur de 100 $, bien ce 100 $-là, c'est l'argent que notre client va nous avoir donné aujourd'hui pour sa première transaction. Est-ce que 12 mois plus tard, c'est encore le même panier moyen que notre client investit chez nous ou ce dernier a acheté davantage de fois dans notre organisation? Et là, ça va nous dire, sur un espace de 12 mois, quel a été le pourcentage de réachat de notre client. Donc, pour donner des chiffres un petit peu, ici, si vous êtes capable d'avoir des cohortes d'acquisition de clients qui grandissent à travers le temps sur 12 mois de 15, 20, 30%, vous êtes dans une excellente situation. Et souvent, c'est une métrique qui n'est pas assez regardée. pour les gens dans l'e-commerce et qui devraient être regardés parce que le profit va venir des réachats de vos clients existants. Donc, après avoir regardé votre MER global et de se poser la question comment qu'on est capable de l'améliorer, bien entendu, si vous êtes capable d'investir davantage dans votre marketing de rétention, donc dans vos envois email, dans vos envois SMS, dans votre présence également organique avec votre communauté, bien tranquillement, vous allez être capable de voir une valeur long terme client qui va augmenter et si on extrapole ça habituellement, ça risque de donner davantage de profit à l'organisation. Donc, une métrique excessivement importante à regarder au niveau de votre marketing. Par la suite, si on continue à regarder ces différentes métriques et de se dire comment qu'on peut améliorer le MER, bien automatiquement, on va regarder ce qu'on appelle le NCAC. Donc, le NCAC veut dire New Customer Acquisition Cost. Donc, combien ça nous coûte pour aller chercher un nouveau client? Et là, je mets vraiment l'emphase ici sur le terme nouveau client. Parce que si vous focussez uniquement sur le CAC, donc le CAC, le Cost Per Acquisition d'un client, bien peut-être ce client-là a déjà acheté chez vous. Donc, ce n'est pas un nouveau client. Et c'est très important de différencier le coût pour aller chercher un nouveau client du coût d'aller chercher un client qui a déjà peut-être consommé chez vous et qu'avec une publicité, vous essayez de lui vendre un nouveau produit. C'est bien de le faire. Il peut y avoir des campagnes publicitaires qui sont faites pour faire en sorte que nos clients achètent d'autres produits, clairement, mais on va bien distinguer le tout ici aujourd'hui en regardant le NCAC avant toute chose. Parce que, comme n'importe quelle entreprise, vous pouvez vendre plus à vos clients existants. Mais si à un certain point, vous arrêtez d'amener de l'eau au moulin, vos cohortes ne seront pas capables de s'améliorer à travers le temps et d'augmenter. Et à un certain point, vous allez être confronté à uniquement envoyer des emails et des SMS à vos listes pour essayer de générer des revenus parce que vous n'aurez pas été capable de trouver le bon mécanisme pour continuellement amener de la nouvelle clientèle à votre entreprise. Donc, c'est très important de regarder le NCAC et également de regarder le nombre de nouveaux clients chaque mois. Ça, c'est une métrique excessivement importante à regarder parce que vos efforts d'aujourd'hui vont être vos résultats de demain. Si vous oubliez d'aller chercher des nouveaux clients aujourd'hui, je vous le dis, vous allez avoir des gros soucis dans quelques mois. Donc, vous devez regarder combien ça vous coûte d'aller chercher un nouveau client et également combien vous allez en chercher chaque mois. Quelle est la volumétrie de ce nombre de nouveaux clients à chaque mois pour savoir si vous faites des bonnes initiatives à vos clients existants pour qu'ils réachètent vos produits, combien d'entre eux seront exposés à ces initiatives-là dans le futur. S'il n'y a pas de nouveaux clients qui rentrent dans votre base de profil, ben à un certain point, toutes les initiatives emailing et SMS n'auront pas tellement d'impact. Donc, votre LTV par extension, à un certain point, va uniquement être impacté sur des cohortes de clients de passé et non des nouvelles cohortes de clients. Donc, c'est très important de regarder notre NCAC et de regarder également le nombre de nouveaux clients.
À tous les auditeurs du podcast Commerce Elite, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que la croissance de votre commerce en ligne va à la vitesse dont vous le souhaitez? Est-ce que dans votre plan marketing, vous avez la bonne balance entre campagne Facebook et Google Ads, stratégie emailing adaptée ou encore création de vidéos natives? Chez Pure Commerce, on s'est aperçu à travers les années que nos clients en commerce électronique qui avaient la croissance la plus forte possédaient chacun des éléments mentionnés plus haut. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a bâti une agence 100% dédiée à la croissance des boutiques en ligne en offrant tous les services qu'une boutique se doit d'avoir pour grandir. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire de croissance pour débuter l'année en force, rendez-vous au www.purecommerce.co/analyse. Donc, je le répète, purecommerce.co/analyse ou encore venez me parler directement sur LinkedIn afin qu'on puisse regarder comment on peut vous aider. Je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels ainsi qu'un plan de match personnalisé. De retour à l'épisode en cours.
Et par la suite, une autre métrique qui est une bonne transition, c'est ce qu'on pourrait appeler le AOV. Donc, le Average Order Value, c'est-à-dire le panier moyen pour une transaction. Et ça, je pense qu'encore une fois, c'est très important de le regarder avec des nouveaux clients comparativement à des clients existants. C'est-à-dire combien vous êtes capable, en l'espace d'un mois, en l'espace de deux mois, de générer de revenus sur une première transaction avec un client. Est-ce que c'est 50$? Est-ce que c'est 100$? Est-ce que c'est 150$? Selon, bien entendu, le type de produit que vous vendez, selon la taille de votre entreprise également. Donc ça, c'est des questions importantes à regarder. Parce que quand vous connaissez le panier moyen que vous êtes capable de générer lors d'une première transaction, automatiquement, ce panier moyen-là va pouvoir dicter combien vous êtes prêt à investir pour aller chercher un nouveau client. Et bien entendu, par la suite, si on comprend bien notre marge de profit qui m'amène à mon dernier point en marketing que j'adore regarder, c'est qu'après avoir compris notre NCAC et notre AOV, la dernière métrique, plutôt les deux dernières métriques qu'on pourrait les segmenter en deux, ce serait le ROAS et le POAS. Donc, le ROAS, c'est une métrique que beaucoup de gens connaissent. Le Return
on spend, donc le retour sur investissement en termes de revenus sur l'investissement publicitaire, et le POS, c'est le profit qu'on va faire sur notre investissement publicitaire. Et le profit qu'on va faire sur notre investissement publicitaire est très, très important à regarder, parce que si on connaît uniquement les revenus de notre organisation et non les profits, ben à un certain point, on va penser qu'on fait un excellent travail en ayant un ROAS peut-être de 2, mais finalement, ce ROAS-là n'est pas soutenable pour l'organisation à cause qu'ils ont des coûts élevés au niveau de ces produits. Donc, je pense que c'est très important de comprendre ces deux métriques-là à ce niveau-là. Et peut-être dans un prochain podcast, on pourra parler un petit peu de philosophie, à savoir quels seraient les chiffres importants à avoir en tête quand on regarde un ROAS, un POAS ou même encore un NCAC. Mais l'objectif du podcast aujourd'hui est surtout de vous expliquer les métriques qui, selon moi, sont importantes à regarder. Donc, si on regarde en termes de marketing ici, le MER, le NCAC, le CAC, le LTV, le AOV, le ROAS et le POAS sont des métriques que chez Pure Commerce, on va souvent regarder avec nos clients ou encore une fois avec les boutiques en ligne qui nous appartiennent. La troisième catégorie maintenant qu'on veut comprendre quand on regarde les finances de notre organisation, c'est les métriques au niveau de nos produits. Au niveau de nos produits, parce que c'est beau faire du bon marketing, mais si à un certain point on ne comprend pas les coûts reliés à nos produits, les coûts reliés à l'expédition de ces différents produits-là, on risque, encore une fois, malheureusement, d'être dans le trouble et de ne pas avoir des bons états financiers à la fin du mois. Donc, au niveau des produits maintenant, qu'est-ce qu'on regarde? La première métrique, le COGS, donc le cost of goods sold. Si on vend un produit qui se vend 50 $, combien ça nous coûte construire ce produit-là ou même acheter ce produit-là avec un fournisseur? On se doit de comprendre cette réalité-là. Souvent, dans le commerce en ligne, vous l'avez peut-être déjà entendu si vous êtes dans le monde du e-commerce depuis plusieurs années maintenant, on essaie de regarder au minimum, et je le dis bien au minimum, d'avoir un ratio d'à peu près 3 sur 1 entre le coût de revente d'un produit et le coût d'achat d'un produit. Ça, je le dis bien que c'est au minimum, parce que si on n'est pas capable d'avoir au moins ce ratio-là, ça risque d'être difficile de trouver une bonne fondation financière, une bonne réalité économique avec notre organisation sur le long terme. Donc, on se doit de comprendre nos COGS et on se doit également de comprendre comment ces COGS-là vont pouvoir impacter avec notre volume d'achat. Très souvent, si on travaille avec des fournisseurs, on risque d'avoir des meilleurs prix si on achète au volume. C'est pas toujours le cas. Nous, ce n'est pas toujours le cas avec une de nos boutiques en ligne. Et c'est même une des raisons qui fait en sorte qu'on regarde pour différents fournisseurs en ce moment, c'est que peu importe le nombre qu'on va acheter à nos fournisseurs actuels, les coûts restent quasiment les mêmes et on a eu des discussions avec eux à essayer de comprendre pourquoi. Et bien bon, c'est une politique qu'ils ont. Donc, nous, on est en train de regarder comment on pourrait trouver peut-être un meilleur prix ailleurs si on achète au volume. Et ça, vous allez être capable de comprendre que vos COGS vont pouvoir bouger à travers le temps, bien entendu, si vous achetez un petit peu plus au volume. Et ça, c'est une métrique très importante à savoir parce qu'automatiquement, si vous êtes capable d'avoir un COGS plus bas, vous allez être capable, bien entendu, de vous permettre un NCAC, si on retourne à nos métriques de marketing, plus haut. Et souvent, quand on peut se permettre d'investir plus pour aller chercher un client, automatiquement, ça nous permet d'avoir un volume d'investissement beaucoup plus élevé. Donc ça, c'est une métrique importante à savoir au niveau de nos produits, nos COGS. Par la suite, nos coûts de transaction. Aux dernières nouvelles, Stripe, les Stripe de ce monde ont des frais quand même importants qu'on se doit de regarder. Si vous êtes avec Shopify Payment, la même chose ici. Et ça, ce sont des coûts très, très, très importants à comprendre et à considérer parce que des fois, ils ne vont pas être automatiquement intégrés dans votre PNL. Donc, pour donner une idée, là, Stripe habituellement va tourner environ à 2,90% sur son pourcentage de prise sur une transaction. Et également, il va y avoir un frais fixe d'environ 30 sous. Donc ça, si vous n'intégrez pas ça dans votre réalité produit, dans vos coûts de produit, ben à un certain point, à un moment donné, vous allez avoir moins d'argent à la fin du mois que ce que vous pensiez parce que vous ne l'aviez pas intégré dans votre équation. Donc ça, c'est très important de comprendre nos coûts de transaction. Par la suite, nos coûts d'expédition. Combien ça vous coûte d'expédier un produit? On le sait. Au Québec, au Canada, c'est sensiblement dispendieux de pouvoir expédier un produit. Ce l'est un peu moins aux États-Unis. Si vous avez fait des tests dans le passé, vous devez comprendre vos coûts d'expédition. Si vous ne comprenez pas vos coûts d'expédition, encore une fois, vos états financiers ne seront pas à la hauteur de ce que vous pensiez à la fin d'un mois. Et on termine au niveau de produits, les coûts de manutention. Donc, les coûts de manutention, si vous travaillez avec un 3PL, vous devez savoir combien ça coûte, au-delà de l'expédition, du frais de shipping, combien ça coûte faire en sorte qu'un employé soit capable de prendre le produit et le mettre dans la boîte et par la suite l'expédier. Vous devez calculer ça également dans vos coûts produits. Et quand vous mettez ces quatre métriques de produits ensemble et que vous intégrez ça dans vos coûts totaux,
tranquillement, vous allez avoir une bonne compréhension de ce qui se déroule avec votre boutique en ligne au niveau de ses finances. Donc, je dirais pour la troisième catégorie de métriques au niveau produit, si vous regardez vos COGS, beaucoup de transactions, beaucoup de shipping et beaucoup de manutention, vous risquez d'être dans une meilleure compréhension, on pourrait dire ça, au niveau de votre entreprise ou au niveau de l'entreprise que vous représentez. La quatrième catégorie de métriques qui est très importante à regarder, ce sont, bien entendu, les coûts opérationnels. Les coûts opérationnels ne vont pas fonctionner toute seule, votre organisation. Vous risquez d'avoir besoin d'employés, vous risquez peut-être d'avoir besoin de fournisseurs ou d'agences comme Pure Commerce pour vous aider. Vous risquez également d'avoir à payer des logiciels. Votre CMS ne va pas se payer tout seul et c'est ça que vous devez regarder ici. Donc là, dans les coûts opérationnels, nous, ce qu'on compte vraiment quand on regarde nos PNL, c'est les coûts d'employés. Donc nous, on a la chance chez Pure Commerce d'absorber ça un petit peu avec notre agence interne. Donc pour le moment, on s'est dit, notre avantage qu'on a peut-être sur d'autres boutiques en ligne, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir d'employés qui vont gérer ces boutiques-là. On est capable de l'absorber, de se dire, avec tout le travail qu'on fait avec nos clients, pour le moment, on ne mettra pas de coûts reliés à ça et on ne mettra pas de coûts d'agence non plus. Mais c'est sûrement pas le cas de votre côté. Vous devez avoir besoin d'employés qui gèrent votre organisation. Vous devez peut-être avoir besoin de fournisseurs externes comme des agences de marketing, des agences qui vont construire votre site web, des agences pour votre taux de conversion. Bref, vous risquez d'avoir des partenaires externes. C'est important de les mettre dans l'équation. On appelle ça le OPEX, Operational Expenditure. Donc, c'est important de bien comprendre ces coûts opérationnels. Donc, coûts d'employés, coûts d'agence. Par la suite, le dernier coût vraiment également à mettre dans nos coûts opérationnels, c'est nos coûts de logiciel. Donc, si vous utilisez Klaviyo, on doit l'intégrer. Si vous utilisez Shopify, le coût de Shopify, on doit l'intégrer. Et vous risquez également d'avoir plusieurs applications intégrées à votre Shopify, peut-être des Lifetimely, peut-être des Zipify. Bref, plusieurs applications qu'on a déjà parlé sur le podcast. Et quand vous avez ces quatre catégories de métriques intégrées dans votre PNL, ben là, vous pouvez arriver les brancher à un logiciel comme Lifetimely, un logiciel comme Triplewell et commencer à comprendre quotidiennement à quoi ressemble votre profit brut que vous générez dans votre organisation. Parce que je le rappelle, c'est la métrique qui nous donne la direction à savoir si la santé financière de notre organisation se déroule bien. Ou du moins, c'est ce qu'on regarde de notre côté. Okay? Donc, je pense que pour tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont dans le commerce en ligne, peut-être un petit peu plus au niveau du marketing, considérez et comprenez ces différentes métriques-là. Parce que le plus que vous allez être capable de les comprendre, le plus que vous allez être capable de maîtriser des arguments importants, nécessaires pour aller demander peut-être plus de budget pour vos investissements marketing, plus de budget pour avoir plus de contenu, plus de budget pour tester des nouvelles applications. Mais tant aussi longtemps que vous ne pouvez pas vous mettre dans la tête, dans la réalité de quelqu'un qui s'occupe des finances d'une boutique en ligne, vous risquez d'avoir certains petits enjeux. Donc, j'espère que les informations que je vous ai transmises aujourd'hui vont pouvoir vous aider. Et sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Commerce Élite.